Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Cette année, l'ACAT, organisation non gouvernementale chrétienne contre la torture et la peine de mort, fête ses 50 ans. À l'approche de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture et de la Nuit des Veilleurs le 26 juin, nous revenons sur les combats et les victoires de l'ACAT au profit de la défense de la dignité humaine. Nous verrons aussi avec les invités de Radio Présence quelle place tient la prière dans cette lutte pour la liberté. Prier et agir pour les personnes victimes de la torture et de la peine de mort, c'est le combat de l'ACAT depuis 50 ans. Pour la région Centre-Pyrénées, qui regroupe les départements de l'Ariège, du Gers, du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne, j'ai le plaisir d'accueillir son coordinateur. Bonjour Alain Glaise.
Bonjour.
À vos côtés, Lucien Buisson, membre de l'équipe toulousaine de l'ACAT. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes aussi le représentant de l'association au comité interconfessionnel de Toulouse.
En effet.
Le combat de l'ACAT est centré sur la torture. Peut-être il nous faudrait quand même définir ce terme avant.
Alors la torture, il n'y a peut-être pas besoin de faire un dessin. Tout le monde comprend de quoi il s'agit et s'en fait une image plus ou moins précise. Ce que je voudrais dire, c'est que il faut entendre le combat de l'ACAT contre la torture d'une manière très large. La torture fait partie de ce qu'on appelle les crimes contre l'humanité. Et donc ces crimes contre l'humanité qui sont constitués de faits absolument inhumains, qui portent atteinte à la personne physique, ce sont notamment l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, le viol, l'apartheid, les disparitions forcées et la torture. Et donc, dans le combat de l'ACAT, il y a tout cela.
Oui, c'est beaucoup plus large.
Voilà, c'est résumé sous le mot torture, tout simplement parce que les deux fondatrices de l'ACAT ont décidé de créer cette association, cette ONG, qui est devenue une ONG, après avoir entendu une conférence sur les tortures au Vietnam, donc en 1974. Voilà, et donc ça s'est appelé Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Mais notre combat dépasse très largement le seul cadre de la torture faite soit pour extorquer des informations, soit pour terroriser des populations.
Oui. Voilà. Alors, dans le combat de l'ACAT, il y a aussi le combat pour l'abolition de la peine de mort. Son application a heureusement diminué depuis l'existence de l'ACAT. Quelle est la proportion de pays qui la pratiquent encore aujourd'hui?
Alors, à l'heure actuelle, en gros, 25%. Des 198 États ou territoires dans le monde pratiquent encore la peine de mort. Les autres l'ont soit abolie, soit observent un moratoire, ou soit n'ont pas exécuté depuis 10 ans. Hein, voilà. Donc,
et c'est un chiffre quand même qui a beaucoup diminué ces dernières années.
Il faut bien dire que l'abolition de la peine de mort, c'est quelque chose qui a évolué extrêmement rapidement, disons, au cours des 40 dernières années, et notamment au XXIe siècle. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'ai regardé cette question, c'est le problème des États-Unis. Les États-Unis, on le sait, est un pays où l'on exécute encore.
Selon les États.
Voilà, selon les États. Et alors, sur les 51 États, 24 ont aboli la peine de mort. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est dans le temps, comment ça s'est passé, comment ça se distribue. Alors, trois pays l'ont aboli au XIXe siècle, et même quelquefois très tôt dans le XIXe siècle, au milieu. 10 ont aboli au XXe siècle, c'est-à-dire dans les années 1900, etc., tout au long du XXe siècle. Et 11, donc presque la moitié, l'ont fait durant les 20-25 dernières années, donc au XXIe siècle. Donc vous voyez, c'est vraiment un mouvement qui va en s'accélérant, et on entend de plus en plus fréquemment que tel pays, est sur la voie de l'abolition, etc., parce que ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, mais C'est pour ça que je pense que les gens qui rêvent d'un retour de la peine de mort sont complètement contre le sens de l'histoire.
Ah oui, complètement. Oui, oui. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous avez parlé de ces deux fondatrices hein, à partir de ces événements au Vietnam. Est-ce qu'il y a une intuition de départ qui a évolué? Est-ce que vous voulez en parler, Lucien Buisson? Quelle a été l'évolution de la CAT sur son combat?
Oui, effectivement, l'évolution, elle a suivi aussi
l'histoire, peut-être.
L'histoire, effectivement, des institutions internationales. Donc, comme l'a dit Alain, il est arrivé que, par exemple, la disparition forcée des personnes est devenue un thème de plus en plus important. Voilà, je crois que ça fait partie des choses qui sont positives, quoi, voilà.
La disparition forcée, ce crime, il a été criminalisé officiellement en 2006.
Oui,
c'est tout récent. Avant, quand un disparaissait, avait été enlevé comme ça et dont on avait plus de nouvelles, on avait beau s'adresser à toutes les autorités, etc., on n'avait plus aucune nouvelle. C'est ça, une disparition forcée. Hein. C'est quelqu'un qui disparaît un jour, enlevé souvent par des groupes mafieux ou par la police ou des militaires, etc., et dont on n'a plus de nouvelles. Et la famille se heurte à un mur pendant des années, avant soit d'apprendre que la personne est morte, soit éventuellement de la retrouver. Et alors ça, cette disparition forcée, ça a été criminalisé, donc bien défini, à partir de 2006. Avant, on ne savait pas trop comment prendre ça d'un point de vue juridique. Voilà, il fallait attaquer le problème par d'autres faits contre la personne qui avait disparu, enfin des faits qui avait porté atteinte à la personne disparue, mais la disparition forcée n'existait pas en elle-même.
Et là, comment vous avez pu justement vous attaquer à cette
alors,
question
ça s'est fait, ce sont des négociations internationales au niveau de l'ONU. La CAT y a participé, au niveau de ce qu'on appelle la FIACAT, c'est-à-dire la Fédération internationale des ACAT, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une trentaine d'ACAT dans le monde, il n'y a pas que l'ACAT France. Voilà. Et donc, une vingtaine d'années de négociations à Genève, à l'ONU. Hein, ça veut dire, voilà. Donc, tout ça, c'est très sérieux quand même.
C'est très sérieux. Et ça, c'est un des combats de la CAT, c'est de participer justement à ces définitions et à ces combats au niveau de l'ONU et puis des instances internationales.
Des salariés qui sont très souvent à l'ONU, qui donnent des rapports à l'ONU ou qui participent à ce qu'on appelle l'examen périodique universitaire, examen périodique universel des pays. Chaque pays passe devant l'ensemble des autres en examen sur sa gestion des droits de l'homme. Et il en ressort de là des recommandations.
Qui sont suivies ou pas?
Alors voilà, c'est la première chose qu'on regarde. On regarde, avez-vous suivi les recommandations de votre précédent examen?
Oui.
Voilà. Et puis, alors plus ou moins. Hein.
Plus ou moins, oui.
La France est passée il n'y a pas très longtemps. La Chine tout récemment, enfin oui, c'est...
Donc c'est les pays qui passent les uns à la suite des autres,
ouais,
c'est
ça, tous les 4 ans. Vu le nombre d'États qu'il y a, donc c'est la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui examine ça. Quoi.
D'accord, et donc la CAT participe...
Alors la CAT participe, la CAT ou d'autres associations peuvent fournir, parce que le pays qui est examiné fournit un rapport dans lequel il essaye de montrer combien il a bien respecté tout ce
à quoi
il
s'est engagé. Ah oui, mais c'est le pays qui présente ça. Il n'y a pas un regard extérieur qui vient vérifier.
Et donc, les associations sont autorisées à présenter des rapports alternatifs. Oui. Voilà. Et donc, la CAT, fréquemment, les salariés de la CAT présentent des rapports alternatifs sur la situation de la France ou sur la situation d'autres pays. Alors, ils ne font pas ça tout seuls. Ils font ça souvent en collaboration avec des ONG locales.
Oui, c'est ça, pour avoir des informations au plus proche du terrain. Vous avez parlé à l'anglaise de ces disparitions forcées. C'est un des autres moyens d'action de la CAT, c'est d'envoyer des pétitions. Et en tout cas, vous venez de lancer là un appel
pour
la libération d'une jeune femme.
Chaque semaine, on reçoit ce qu'on appelle un appel urgent. Et celui qu'on a reçu cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. C'est à propos d'une jeune femme qui a disparu en République démocratique du Congo.
Voilà. Et elle a disparu quand? On n'a pas forcément la date.
Alors, si, le 17 mai 2024, autour de 17h, Gloria Sanga a été interpellée par des hommes, certains en tenue civile, d'autres vêtus d'uniformes de police, à proximité du cercle Bimwala, situé dans la commune de Barumbu, à Kinshasa.
Oui, donc le 17 mai, c'est pas si vieux que ça, puisque nous sommes le 24 juin, et donc là, branle-bas de combat.
Elle a été interpellée avec deux autres collègues, que l'on a pu localiser, mais elle, On n'a plus de nouvelles, on ne sait pas où elle est, elle a disparu, corps et bien. Enfin, corps, on espère que non.
Et cet appel que vous envoyez, j'imagine, à tous les membres de la CAT, qui est-il destiné?
Les membres de la CAT sont invités à écrire au président, le nouveau président de la République,
de la RDC.
Qui vient d'être élu, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc on lui écrit directement. Alors, on peut l'écrire par la poste, mais également on a son adresse mail, donc... On envoie des mails maintenant. Ça fait partie de l'évolution de la CAT.
Ah oui, quand même, oui.
Et puis, on envoie une copie à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Paris.
D'accord. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de combats menés et gagnés ces dernières années par la CAT?
Ah, ça, c'est souvent difficile. Oui, on aboutit à des... on aboutit à des libérations. Il y a des personnes pour qui on est intervenu et on apprend qu'elles sont libérées. C'est publié dans notre magazine Humain tous les trois mois. On a ce qu'on appelle la série des bonnes nouvelles. Alors, on a des bonnes nouvelles. Alors, par exemple, je peux vous citer le cas d'une Mexicaine. Alors, elle n'a pas été libérée, elle, mais c'est une avocate défenseur des droits humains qui est fondatrice d'un collectif Zapata Vive, qui a le droit à la terre, et qui fait de la résistance pacifique, qui s'occupe beaucoup des droits des femmes aussi. Donc, elle a été qualifiée par un juge de femme dangereuse et insoumise.
Ouh.
Elle a été arrêtée, condamnée à 20 ans de prison. On lui a mis sur le dos 10 affaires pénales. Bon, voilà, tant qu'à faire, on a bien chargé son sac. Et on est intervenu pour elle l'an dernier. Et là, on a reçu un mot. Où elle dit « J'ai commémoré mes 1000 jours de prison le 15 juillet dernier avec la joie que pour la première fois dans l'histoire des prisons mexicaines, on nous permette de vivre ensemble en tant que sœurs indigènes dans un seul pavillon. » C'est-à-dire qu'avec d'autres prisonnières comme elle, on les a regroupées,
oui.
Si bien qu'elles ne sont plus isolées. Elles peuvent, voilà. Je suis infiniment reconnaissante à l'organisation ACAT France ainsi qu'à d'autres organisations, etc., leurs actions ont permis que la prison Seferesso nous donne cette possibilité. Nous demandons aux organisations de ne pas cesser de défendre les droits humains pour notre bien à nous toutes. Voilà.
Ah ben voilà, ça c'est réconfortant quand même d'entendre ça.
Voilà. Ouais.
Lucien Michon, vous avez peut-être une petite histoire à nous raconter sur un des fruits de l'action de la CAT. difficile, vous ne l'avez pas en mémoire. Alors, peut-être qu'on peut aussi parler de l'action de la CAT sur l'assistance aux victimes et puis le lien avec les familles, pardon. Quelle est cette action précisément?
Il arrive souvent que dans les groupes de CAT, il y a des correspondants avec des condamnés à mort qui sont dans le couloir de la mort. Hein. Donc, il y a une périodicité qui est variable suivant les groupes, mais qui permet d'avoir une relation, disons, plus proche. Hein. Et souvent, c'est quelque chose que les personnes qui reçoivent ces courriers apprécient, quoi. Apprécient parce que une des mesures, disons, des États qui appliquent la peine de mort, c'est justement l'isolement, quoi.
Oui.
C'est le fait de laisser les gens dans la solitude, et le fait d'être entouré d'une façon ou d'une autre et de recevoir des courriers, je pense, est aussi un encouragement à la dignité humaine, quoi, finalement, quoi.
Est-ce que les prisonniers peuvent vous répondre?
Bien sûr, ils peuvent nous répondre. Alors, les systèmes varient suivant les années. Avec les États-Unis, dorénavant, il y a un système qui est un peu plus souple, disons, parce qu'il y avait il y a des barrières, disons, etc. Mais effectivement, ils répondent. Alors, ils répondent aussi suivant des périodicités qui sont variables, naturellement, quoi.
Oui. Qu'est-ce qui se dit à travers ces correspondances? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une certaine proximité.
C'est très émouvant, souvent, ces correspondances. Il y a d'ailleurs un film qui a été fait, qui s'appelle « Lettre du couloir de la mort ». On doit pouvoir le voir
sur YouTube,
Internet. Ouais. Il a été sponsorisé par KTO, etc. Donc, on doit pouvoir trouver « Lettre du couloir de la mort ». Il faut trouver ce film qui dure une demi-heure. C'est très, très émouvant. Et souvent, ces prisonniers ont une spiritualité, enfin, ceux avec lesquels on correspond. En tout cas, une spiritualité qui est absolument une spiritualité chrétienne qui est stupéfiante, quoi. Enfin, ça apporte beaucoup à ceux qui écrivent.
Hein. Oui.
Voilà. Alors, à propos aussi du lien avec des familles, il arrive à la CAT de se porter partie civile dans un certain nombre d'affaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que d'abord, je n'ai pas beaucoup de précisions, mais je sais que, par exemple, on peut se porter partie civile pour des... On s'était porté partie civile, à un moment donné, pour des franco-marocains qui avaient été torturés au Maroc. Bon, des histoires comme ça. Enfin, voilà, ça peut aller jusqu'à l'assistance judiciaire. Il y a même un cas assez extraordinaire concernant une famille de la bande de Gaza qui, un jour... À l'heure actuelle, je ne sais pas dans quel état ils sont, les pauvres. Mais un jour, on se sont pris un missile sur leur maison qui a fait des dégâts, qui a tué un des enfants, je crois. Et dans les débris du missile, on a retrouvé un composant d'origine française.
Oula.
Alors ça a permis aussi d'engager la CAT, à engager toute une action. Je ne sais vraiment pas où ça en est à l'heure actuelle, parce que vu les...
À l'encontre de l'État français, en fait, pour sa participation.
Ou de l'industriel, enfin,
oui.
Voilà.
Oui. Et d'ailleurs, tout récemment, la CAT est intervenue pour demander l'arrêt de la livraison d'armes à Israël. Oui. Selon quel principe agit-elle ?
En principe, on n'a pas le droit de livrer des... On n'a pas le droit, un pays n'a pas le droit de livrer des armes offensives, enfin, dont on va se servir comme arme offensive. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça, mais bon, c'était la même chose pour la guerre au Yémen. Il y a eu aussi une action des députés là-dessus, soutenue par la CAT. Amnesty et d'autres. Enfin, voilà.
Oui. Et là, pour l'Ukraine, par exemple, est-ce qu'il y a eu une intervention de la CAT pour dire que voilà, il y a aussi une livraison d'armes ?
Non, pas à ma connaissance. Non.
D'accord. Pour terminer, avant notre pause musicale, il y a aussi cette action de la CAT lors de la mise en place de la Cour pénale internationale de justice en 2002. Elle ouvrait la possibilité pour un pays de juger ses propres binationaux. Et là, la CAT est aussi intervenue pour cette disposition ?
Pour la création du tribunal pénal international ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, non.
C'était pour la possibilité de juger ses binationaux.
Cette Cour pénale internationale a été créée en 2002, parce qu'il n'existait rien au niveau... Alors ça rappelle un peu l'histoire du tribunal de Nuremberg. Hein.
Ah oui.
Voilà. Bon. Ça a été créé en 2002, et elle ne peut juger que les affaires qui sont intervenues après 2002, à partir de 2002.
Ah bah oui, bien sûr.
Voilà. Mmh. Alors, à l'heure actuelle, on sait qu'un certain nombre de chefs d'État ou les directeurs, les leaders du Hamas, etc., sont... dans l'œil de cette Cour pénale internationale. Alors, il y a la Cour pénale internationale pour juger les gens, les hommes, et la Cour internationale de justice pour juger les pays. C'est pas exactement la même chose. Alors, souvent, on fait un peu la confusion
c'est
entre
vrai.
Les deux.
Voilà. Mmh.
Donc, c'est ce qu'on appelle la justice internationale, et qui est complétée par ce qu'on appelle la compétence universelle. C'est-à-dire que les 120 pays qui ont créé cette Cour pénale internationale, dans le cadre de ce qu'on appelle le statut de Rome, ont également la possibilité, s'ils sont sollicités, de juger des crimes commis ailleurs que sur leur territoire. C'est le cas actuellement pour des tortionnaires syriens qui ont torturé à mort deux Français, un père et son fils, dans cette énorme campagne de torture sur plusieurs années de répression du printemps arabe en Syrie. Et donc, la famille a porté plainte en France. Et donc, on juge ces hauts dignitaires. Ce sont des hauts dignitaires syriens qui sont accusés, là, dans l'occurrence. La même chose a été faite en Allemagne. Et ils ont été condamnés. Il y a le biais, là, du fait que les victimes sont des binationaux. Mmh. Franco-syriens, germano-syriens, etc.
Et là, la CAT peut assister les familles...
Oui, alors pour l'instant, ça ne s'est pas fait, mais
ça
si on le,
fait,
on le
mais
demande,
ça peut être possible.
Oui, absolument. Oui. Oui, l'assistance judiciaire, ça fait partie de ces moyens d'action. Oui.
D'accord. Est-ce que vous voyez une évolution ou quelque chose poindre pour l'avenir de la CAT ? Est-ce que vous vous dites, ah tiens, vous avez parlé des courriers qui étaient envoyés maintenant par mail, est-ce qu'il y a un défi auquel vous allez devoir vous confronter dans les prochaines années ?
Je dirais que le défi, c'est surtout celui de l'engagement. Parce que, comme nombre d'associations, d'actions humanitaires, etc., l'engagement de longue durée, disons, en particulier chez les jeunes aujourd'hui, est plutôt déficient, quoi. Alors, il y a un phénomène qui est intéressant pour la CAT, c'est que les donateurs sont de plus en plus nombreux, mais que les gens qui s'engagent au quotidien, malheureusement, sont de moins en moins nombreux. Donc le défi, c'est de trouver de la façon dont mobiliser les jeunes sur la CAT. Voilà, pour moi, essentiellement.
C'est un problème auquel la CAT commence à s'attaquer là, dans le cadre des 50 ans. Ça fait vraiment partie là, des problèmes qu'il faut arriver à résoudre.
Oui.
Voilà. Donc, il faut nous réinviter là au mois de décembre, quand on va fêter, quand il y aura la grande fête nationale les 6 et 7 décembre pour fêter ce cinquantenaire. Voilà, à ce moment-là, peut-être on reparlera de ce problème, effectivement, qui est le problème majeur, c'est le problème numéro 1.
De l'engagement des jeunes générations.
Voilà.
D'accord.
Des jeunes ou des moins jeunes, hein, même les pré-retraités ou les retraités, les jeunes retraités
ils sont
les
très sollicités, les nouveaux retraités.
Ils sont les bienvenus.
Oui, ça c'est vrai. Oui. Alors, après ce bilan des actions et des réussites de la CAT, je vous propose de nous retrouver après une pause musicale. Nous allons aborder le volet spirituel de l'action de la CAT, puisque nous disions qu'il y avait ces deux pieds, hein, la prière et l'action. Nous écoutons Liberté, interprétée par les Frangines.
1, 2, 1, 2, 3. Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et faible, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer. Liberté, je suis née pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté. Je suis née pour te connaître. Liberté, pour te nommer. Liberté, pour te connaître. Liberté. Liberté, 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 liberté.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
À l'occasion des 50 ans de l'ACAT, Association chrétienne contre la torture et la peine de mort, et de la prochaine nuit des veilleurs le 26 juin, nous nous intéressons aujourd'hui à sa dimension spirituelle. Alain Glaise, coordinateur de la région Centre-Pyrénées, et Lucien Buisson, membre de l'équipe toulousaine de l'ACAT, sont les invités de Radio Présence. La prière est résolument un moyen d'action pour les membres de l'ACAT, association chrétienne. Elle regroupe catholiques, orthodoxes et protestants. Que permet-elle de vivre cette prière au cœur de l'action ? Lucien Buisson.
La prière, c'est le terrain, disons, de l'action. C'est-à-dire, Dietrich Bonhoeffer disait la prière ne remplace pas l'action, mais une action que rien ne peut remplacer, quoi. Et donc c'est vraiment une joie pour ceux qui participent à la CAT comme moi. D'abord, c'est une action œcuménique, donc c'est là aussi la joie de se rencontrer entre croyants de diverses confessions. Et puis c'est une façon de montrer que l'avancement du règne de Dieu, parce que c'est quand même ça le but de la vie chrétienne, repose sur une confiance, une écoute de Dieu au quotidien. Et cette écoute, elle va aussi reconnaître la réalité du monde tel qu'il est, la réalité du mal, de la violence, et donc pouvoir se confronter à ça ensemble dans la prière, c'est une base pour moi, c'est vraiment la base de toute action. Quoi.
C'est le terreau de l'action.
C'est le terreau de l'action, très bien, je suis d'accord.
Concrètement, comment vous priez pour toutes ces victimes et toutes leurs familles? Est-ce que vous avez un rendez-vous où vous priez ensemble par petite fraternité? Ou est-ce que c'est vous avez une intention et puis chacun prie chez soi?
Alors la prière personnelle, naturellement, est une réalité, mais nous avons l'occasion dans toutes nos réunions de prier. Il n'y a pas une seule réunion qui se passe sans que nous prions ensemble, quoi. Et donc, suivant les groupes, je pense qu'il y a des traditions différentes, mais en toute façon, la prière est un passage obligé, quoi. Mmh. Voilà,
et dans tous les groupes, quoi. Et dans vos groupes, vous mélangez les trois religions, enfin les trois...
Ah, bien sûr. Ouais.
Vous n'avez pas un groupe avec des catholiques, un groupe avec des protestants.
Non. Par construction, le groupe est œcuménique, disons, naturellement, quoi. Oui, bien sûr. Oui.
Par exemple, quand notre groupe de Toulouse, quand on se réunit une fois par mois, et à la fin, on réunit les appels urgents, l'appel à mobilisation, comme on dit maintenant. Ça, le vocabulaire a changé.
Donc celui dont nous parlions avant la pause musicale.
Voilà, tous ceux qu'on a reçus dans le mois, en général, il y en a à peu près 4-5. Et puis, à tour de rôle, quelqu'un résume le cas, et puis improvise une prière... très courte, une petite minute, voilà, ça suffit. Et puis on passe au cas suivant. Voilà.
D'accord, donc c'est un peu une intercession, en fait, vous priez.
Absolument, une intercession.
D'accord. Oui, oui. Est-ce que c'est aussi l'occasion de rendre grâce pour les fruits de sa prière, ou en tout cas de l'action de la CAT, de se dire, tiens, on a reçu, comme vous disiez à l'anglaise tout à l'heure, un mot de remerciement, où on entend que des pays ou des États abolissent la peine de mort. Est-ce que ça, c'est aussi une des formes de votre prière?
Oui, tout à fait, oui. Alors là, on peut parler justement d'un nuit des veilleurs, donc, qui va avoir lieu le 26 juin, enfin à Toulouse en tout cas, dans le cadre de ce qu'on appelle... la journée internationale de soutien aux victimes de la torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donc, dans ces veillées de prière, puisque ça a pris essentiellement la forme de veillées de prière relativement courtes, une heure et demie maximum, la prière s'articule autour de victimes, d'un panel de 8 victimes pour lesquelles la CAT est intervenue dans l'année écoulée. Et donc, il y a une première partie de présentation et de prière pour ces victimes, puis ensuite d'écoute de la parole de Dieu sur un thème donné, et puis ensuite on va prier pour les tortionnaires.
Alors ça, on va en parler.
Et puis on va prier pour une prière d'action de grâce pour les bonnes nouvelles que l'on a récoltées dans l'année écoulée.
Mmh. Donc ces veillées de prière, elles auront lieu dans notre région. Il y en aura une en Haute-Garonne, une dans le Gers et deux en Ariège. Oui. Peut-être vous pouvez nous donner maintenant les dates.
Alors, en Haute-Garonne, c'est à Toulouse, mercredi 26 juin à 18h30 à la chapelle Sainte-Anne, là, derrière la cathédrale. Dans l'Ariège, au Carlabel, mercredi 26 juin aussi à 18h au Temple. Et à Lavelanet, vendredi 28 juin à 18h dans la salle paroissiale, place Jeanne d'Arc. Il y en a une également dans le Gers, à Pavie, donc près d'Auch, mercredi 26 juin. À 20h30 dans la chapelle du Cédon. Voilà. Alors, il y en a d'autres dans d'autres départements de l'ex-Midi-Pyrénées, enfin, là où Radio Présence diffuse, mais je n'ai pas les dates, malheureusement.
Bon, alors peut-être qu'on pourra les trouver aussi, peut-être sur le site de la CAT, ce sera diffusé. Alors, cette veillée de prière du 26 juin ou autour du 26 juin donne finalement une dimension spirituelle à cette journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Alors, elle a pour thème cette année, grâce au Christ, la vie a vaincu la mort. Pourquoi ce choix?
Alors, ce choix, je peux en parler parce que je fais partie du groupe de travail qui prépare la Nuit des Veilleurs au niveau national. Donc, c'est un groupe qui s'appelle Sensibiliser les Églises. Et donc, chaque année, on prépare la prochaine Nuit des Veilleurs. Et la première chose que l'on fait, c'est de chercher un thème. Donc là, on s'en remet un peu à l'Esprit Saint, si je puis dire, parce que chacun arrive avec des propositions. Et puis, finalement, il y en a une qui arrive à l'emporter sur les autres. Donc voilà. Donc cette année, c'est grâce au Christ, la vie a vaincu la mort.
Oui.
L'année dernière, c'était sur la prière d'intercession. Bon, voilà, etc. Ça, chaque année a son thème.
Son thème.
Depuis 18 ans que ça existe.
Que ça existe. D'accord. Alors, vous avez parlé de la prière pour les tortionnaires. Ça, c'est aussi une des spécificités de l'ACAT. Dans quel but ?
Eh bien, le but, c'est effectivement que la grâce de Dieu soit reconnue par eux, qu'elle puisse les atteindre au plus profond. Là, il n'y a jamais de personne dont on va devoir désespérer totalement, quoi. Et je crois que l'action de Dieu, c'est justement ça, c'est de montrer dans toute situation qu'il y a une issue, qu'il y a une ouverture, et que donc, éventuellement, il est possible qu'ils la reconnaissent, et que grâce à l'acceptation ou l'écoute, disons, de la grâce de Dieu, ils puissent changer, quoi, et trouver la place de l'amour à la place de la violence et du mépris de la dignité humaine, quoi. Mm-hmm.
À l'anglaise, vous voulez nous citer l'exemple de Maïté Vertaner.
Maïté Gartaner pendant la guerre 39-45, était jeune fille, a été très durement torturée par un jeune SS qui lui a dit « Tu ne pourras plus, tu seras handicapée toute ta vie. Je veux que tu sois handicapée toute ta vie. » Il l'a vraiment salement torturée. Elle n'a pas pu faire la carrière de planiste qu'elle envisageait. Et elle écrivait, elle donnait l'injonction « Priez pour les bourreaux avant de prier pour les victimes. » Pour les victimes aussi, bien sûr, Dieu sait si elles en ont besoin, mais le grand malheur est du côté des bourreaux. Ça, c'est quand même d'une force extraordinaire. Hein. Alors pour la petite histoire, enfin, grande histoire, il faut savoir que à la fin de sa vie, à la fin de leur vie, à tous les deux, elle étant une vieille dame déjà, et son tortionnaire étant sur le point de mourir d'un cancer, il a cherché à la revoir, il est venu la trouver, et il lui a demandé pardon. Voilà, donc...
Un fruit de la prière, en tout cas. Ouais, c'est beau.
Ouais. Il y a aussi dans un camp de concentration, on a trouvé la prière composée par un déporté anonyme. C'est une prière pour les bourreaux aussi que l'on utilise souvent. Et elle se termine ainsi. Et que les victimes restent dans le souvenir de ceux qui les persécutent. Non comme un cauchemar, non comme des spectres attachés à leurs pas, mais comme des soutiens dans leur propre effort pour détruire la furie de leur passion criminelle.
Voilà. Et cette prière, donc, elle a été trouvée dans un camp. Et
on prière sait pas qu'il a... composée par un déporté anonyme. Voilà.
Ça, c'est édifiant, hein, quand même. Hein.
Oui.
Oui, si on pouvait prier pour toutes les personnes, prier pour vos ennemis, voilà, en fait, ça vient.
C'est exactement ça.
Prier
pour vos ennemis.
Quand vous êtes en correspondance avec ces personnes qui sont dans le couloir de la mort, est-ce que vous évoquez justement la prière, la dimension spirituelle, Lucien Buisson ?
Comme l'a dit Alain, effectivement, il y a très souvent dans les personnes qui sont dans cette situation-là, un surgissement en général, pas forcément un surgissement, mais en tout cas un renforcement de la vie spirituelle. Et donc c'est pas je crois que c'est relativement fréquent qu'ils évoquent effectivement dans leur courrier, dans leur réponse, la vie spirituelle, auquel cas il y a un appel à ce que les courriers prennent aussi une coloration un peu différente de la part de ceux qui les envoient, quoi.
Et là aussi, j'imagine, comme pour choisir le thème, l'Esprit Saint souffle et inspire à ceux qui écrivent des mots pour continuer dans la progression spirituelle des...
Ouais. Moi, je sais que j'ai été surpris. On correspond là avec notre groupe, avec un prisonnier qui s'appelle John. Et la première fois où il a cité, je crois que c'est une lettre de Saint Jacques, enfin de Jacques. Et j'avoue que j'étais un peu scotché. Et voilà. Et effectivement, dans les lettres, maintenant, on n'hésite pas à s'engager un peu sur ce terrain-là aussi.
Oui.
Terrain spirituel, oui.
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 Oui. C'est votre
Mais il y a d'autres exemples encore beaucoup plus frappants. D'autres, je vous dis, il y a ce film dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle « Lettres du couloir de la mort ». Ça, j'engage les auditeurs à chercher sur Internet.
Oui, ça a l'air intéressant, effectivement. «
Lettres du couloir de la mort ». J'espère qu'il y est toujours, dans un YouTube quelconque.
Oui, certainement. Est-ce que la prière vous permet aussi de garder l'espérance? Parce que parfois, on peut être découragé quand même avec des appels qui ne portent pas leurs fruits.
C'est la grande question. Hein. Je pense que la situation actuelle du monde nous entraîne ou nous tente avec le désespoir, hein, c'est clair. Et donc l'espérance, ça fait partie des graines ou des dons que nous pouvons recevoir en étant chrétiens. Voilà, je vois, par exemple, j'ai une prière sous les yeux qui se termine par « Toi qui en Jésus a fait surgir l'espérance d'un monde nouveau, dénué de toute souffrance, aide-nous à en dresser chaque jour des signes annonciateurs. » Et donc, l'espérance, c'est souvent quand il n'y a plus d'espoir que l'espérance surgit, quoi. Et je crois que c'est vraiment la vertu ou le don qu'on peut demander le plus aujourd'hui, quoi. Et la prière nous aide à recevoir ce don, quoi.
Mm-hmm. Alain, vous vouliez compléter ?
Oui, la prière, ça a aussi l'avantage, si je puis dire, de nous sortir de nous-mêmes, un peu d'éviter de tomber dans l'activisme pour l'activisme, et de donner un sens, véritablement un sens, à ce que l'on fait, quoi.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai.
À tout cet engagement.
Mm-hmm. Alors, outre la prière, vous avez à la CAT une commission théologique qui se réunit régulièrement pour élaborer des textes. Un des sujets abordés est l'approche chrétienne du refus de la torture. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots pour que nous comprenions bien ?
Le problème, c'est que la torture a été, pendant très longtemps, approuvée par les chrétiens, hein, pratiquée par les chrétiens. Et à l'heure actuelle, il y a des chrétiens qui ne répugneraient pas éventuellement à torturer. Bon, on l'a vu encore dans des événements récents, la guerre d'Algérie, les Américains aussi avec Guantanamo.
Notamment pour obtenir des informations.
Voilà, et ce sont des chrétiens quand même. Bon, donc, je veux dire, voilà. Donc ça pose quand même des problèmes. Et donc il y a tout un argumentaire chrétien qui est basé sur la dignité de l'homme. La dignité est attachée à l'homme. Hein. Sa dignité, elle est attachée à l'homme. C'est très facile. On ouvre la Bible à la première page, elle est proclamée. Donc pour les juifs et les chrétiens, il n'y a aucun problème. Mais même pour les musulmans, la dignité de l'homme est proclamée dans les Corans, parce que dans le Coran, Dieu crée l'homme et demande aux anges de s'incliner devant lui. Donc c'est quand même de s'incliner devant lui, l'homme, devant l'homme. Voilà, donc dans nos trois religions monothéistes, la dignité de l'homme est véritablement... en tête de tout. Oui. Et donc, cette dignité, eh bien, il faut la respecter. Il faut la respecter. L'homme est conscient de sa dignité. C'est même quelque chose, la notion de dignité humaine, ça n'existe pas que chez les chrétiens. C'est,
oui, elle est intrinsèque.
Voilà, les philosophes antiques, déjà, parlaient de la dignité de l'homme, etc. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut respecter, que l'on n'a pas le droit de blesser. Et en particulier, je crois que ce qui est catastrophique dans la torture, c'est que la personne torturée perd le sens de sa dignité. C'est catastrophique. Et on a des exemples de... moi, je pense au frère Tito, par exemple, donc, qui est un jeune dominicain, et qui, alors je ne sais plus, en Argentine, je crois que c'est en Argentine, il a été torturé, mais alors horriblement torturé. Et il s'en est jamais remis. Il a été libéré, un jour il a été libéré, il est revenu en France, et malgré les soins prodigués par ses frères, il ne s'en est jamais remis. Et il a fini par se suicider. Voilà. Donc c'est vrai, voilà, les gens se dégoûtent d'eux-mêmes, enfin, d'une certaine manière. Enfin, voilà, ils n'ont plus l'estime
d'eux-mêmes.
Leur propre dignité. Et ça, c'est très grave. Oui. C'est très, très grave.
Dans un des textes sur justement cette approche chrétienne du refus de la torture, il y a même le terme de viol moral quand les tortionnaires essayent d'extorquer une parole. C'est quand même très fort comme terme.
Oui, viol moral, oui, oui. Oui, on pénètre dans la conscience des gens et on la blesse, oui, c'est un viol moral, oui, absolument.
Ouais, c'est quand même très fort. Ouais. Un dernier mot sur cette commission théologique. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont à l'étude ou en tout cas qui vous aident vous aussi dans vos groupes pour avancer?
Alors cette commission, elle organise des colloques aussi, par exemple des colloques religion et torture, hein, comme il y en a eu un à Marseille il y a quelques années. Et puis, de temps en temps, elle nous sort des textes. Moi, je trouve très beau, un texte qui est paru en 2013 et qui se termine par « L'Eucharistie des chrétiens, c'est l'anti-torture ». Voilà. Parce que l'Eucharistie nous réunit nos corps en un corps qui est le corps du Christ. Donc c'est vraiment la réunion des corps, alors que la torture, c'est l'éparpillement du corps et des corps pour mieux gouverner sur eux, pour mieux, etc.
Pour me régner.
Un éparpillement. Voilà. Et donc, je trouve très beau cette conclusion. L'Eucharistie des chrétiens, c'est l'anti-torture.
Voilà, c'est effectivement une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Alain Glaise. Et merci, Lucien Buisson. Je rappelle donc la nuit des veilleurs le 26 juin, pardon, et puis les veillées de prière dont nous avons donné les dates et les lieux dans cette émission pour rendre grâce pour les victimes libérées et puis pour confier les prisonniers qui attendent dans les couloirs de la mort et ceux victimes de torture. Et puis évidemment, prier aussi pour les tortionnaires. Merci à vous deux.
Merci.